8h. Le journal sur France Inter, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les 2335 mots de la longue lettre d'Emmanuel Macron aux Français et cette série de questions qui pourront se poser pendant les deux mois du grand débat qui s'ouvre, des plus attendus aux plus polémiques. Détails et réactions dans un instant et un ministre dans ce studio à 8h20.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, dans le grand entretien de la matinale. Vous pouvez intervenir dès maintenant au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et avec l'application France Inter.
À la une également, quand les impôts vous versent des sous, une partie de vos déductions fiscales sous forme de virement dès demain, c'est une des nouveautés du prélèvement à la source. Cesare Battisti dans l'avion du retour en Italie. Après presque 40 ans de cavale, il y aura d'autres extraditions de condamnés des années de plomb, prévient le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Deux policiers aux assises à Paris sur le banc des accusés. Début du procès de la retentissante affaire de viol du 36 quai des Orfèvres. Nous serons aussi en Irak, où Jean-Yves Le Drian est en train d'arriver. La France ne renonce pas face à Daesh, dira le ministre des Affaires étrangères. Et puis à Melbourne, pour le début de l'Open d'Australie, Nadal en grande forme, Federer attendu comme le Messi.
France Inter.
Ces mots sont partout ce matin dans tous les journaux et sur franceinter.fr. Emmanuel Macron parle aux Français dans une lettre de 6 pages, un appel à débattre pendant 2 mois lu par Christian, gilet jaune des Pyrénées-Orientales.
Si vous voulez, cette lettre, ces 6 pages de texte, j'ai l'impression de lire les conditions générales de vente d'un emprunt bancaire. C'est surprenant, hein. Vous avez tous les termes en petit, vous avez quelques termes en gras. Ce n'est pas parler aux Français. J'avais imaginé une lettre qui soit relativement simple, qu'on ne rentre pas forcément dans de grands détails, qui aurait pu être abordé par la suite, mais quelque chose qui parle plus aux Français. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est cette lettre qui fait 6 pages. Les thèmes abordés sont les thèmes, en fait, qui sont repris même depuis l'élection de M. Macron. Ce sont des thèmes qui lui sont chers. La démocratie, vous savez, moi, ce que j'en lis, ce ne sont que des mots. On va attendre ça jusqu'au mois de mars, et je ne vois pas qu'est-ce qui peut en sortir. Je ne sens pas du tout l'aspect démocratique dans ce discours. Puis un débat, pour moi, il ne se fait pas d'en haut. Un débat ne peut commencer que d'en bas.
Voilà ce gilet jaune sceptique au micro de Sébastien Cabri. Rita Dos Santos de France Bleu Roussillon, mais Emmanuel Macron s'adresse à tous les Français pour transformer les colères en solutions, écrit-il. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
Cette lettre, elle commence par une ode à la France, nation parmi les plus fraternelles et égalitaires, dit Emmanuel Macron. Elle s'étend ensuite longuement sur les 4 grands thèmes du débat avec une série de questions posées directement par le chef de l'État. On commence par celles qui ne surprendront pas, Cyril.
Avec beaucoup de revendications entendues sur les ronds-points ces 2 derniers mois, faut-il tirer au sort des citoyens pour les associer aux décisions politiques, accroître le recours au référendum. Il y a des questions d'ordre institutionnel. Faut-il reconnaître le vote blanc, rendre le vote obligatoire ou encore quelle est la bonne dose de proportionnel? 2 mois après le lancement du mouvement des Gilets jaunes, consécutif notamment à la mise en place de la taxe carbone, le président interroge comment finance-t-on la transition écologique? Par l'impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité? Il interroge aussi sur les économies. Quelles sont celles qui vous semblent prioritaires à faire?
Avec ces questions classiques, il y a des questions inédite aussi, Cyril, de la part du chef de l'État, des questions qui fâchent.
Oui, si le devoir de l'asile ne saurait être remis en cause, souhaitez-vous, demande Emmanuel Macron, que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement, comprenez des quotas annuels d'immigration, une mesure qu'il n'avait jamais proposée. Tout aussi surprenant, faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés par rapport à leur utilité? Beaucoup de gilets jaunes critiquaient pourtant le manque de services publics, alors ils demandent, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les relancer?
Enfin, une ligne rouge, Cyril, pas touche à l'ISF.
Pourtant, il assure dans sa lettre qu'il n'y aura pas de questions interdites, mais il trace effectivement cette ligne rouge. Dans sa lettre, il est très clair, pas question de revenir sur les réformes fiscales votées depuis 18 mois. En clair, vous aurez beau débattre sur la suppression de l'ISF, on ne reviendra pas dessus. Fermez le banc, mais certainement pas la colère de certains.
Cyril Gradiani du service politique de France Inter.
8h04, sur le terrain, le grand débat sera lancé demain dans l'heure par Emmanuel Macron. Il va rencontrer des maires.
Ensuite, la parole sera donnée aux Français. Les préfets ont reçu des instructions pour organiser concrètement les consultations. Il va y avoir une plateforme numérique et une place pour l'opposition qui souhaitera se saisir du débat, Élodie Forêt, alors que certains appellent déjà au boycott.
Le grand débat, une entourloupe destinée à enterrer les gilets jaunes, lâche Éric Coquerel, député insoumis, qui l'assure, aucun cadre du mouvement ne participera. Boycott aussi de Nicolas Nicolas Dupont-Aignan, pour qui ce débat est une baudruche déjà dégonflée, et du Rassemblement national. « Nous n'y croyons pas », disait la semaine dernière le porte-parole Sébastien Chenu. « Nous laisserons le rôle de potiche à En Marche et aux Républicains ». Car en effet, si dans l'opposition, tous regrettent et contestent le verrouillage du débat, certains, comme les LR, prônent l'attitude positive. « Notre objectif, c'est de sortir du chaos, de tout faire pour que les choses s'arrangent », explique la porte-parole Laurence Saillez. Dans de nombreuses communes, les élus Les Républicains vont donc prêter main forte et ouvrir leur mairie. Les communistes et les socialistes, eux aussi, se disent prêts à participer. Il n'y aura pas d'entrave, promet Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui tient quand même à prévenir le gouvernement. Il serait tragique que ce débat soit un enfumage.
Élodie Forêt, toujours pas d'organisation structurée de gilets jaunes. Ceux des Pyrénées-Orientales s'y sont essayés hier, réunis à 600 en congrès, mais le climat s'est vite tendu entre les participants et la réunion s'est terminée sans décision, si ce n'est celle de continuer à occuper les ronds-points.
Il est 8h06, c'est tout nouveau, l'impôt prélevé à la source en ce mois de janvier et ses premières étapes.
Le versement des pensions de retraite en début de mois, les crédits d'impôt cette semaine, ceux qui en bénéficient recevront demain sur leur compte en banque un acompte de 60%, Delphine Simon.
Jusqu'ici, ce crédit d'impôt vous permettait de réduire l'impôt payé chaque mois. Désormais, il sera payé en deux fois. Il s'agit d'atténuer le choc de la réforme sur la trésorerie des ménages. Près de 9 millions de foyers vont percevoir une avance de 627 euros en moyenne. Dans le détail, l'avance sera de 840 millions d'euros pour les contribuables qui font des dons aux associations, sans compter les cotisations syndicales. Le gros de l'acompte, jusqu'à 2,5 milliards d'euros, est versé pour les frais d'emploi à domicile. Sont également concernés les frais de garde d'enfants, les versements à un EHPAD ou l'investissement locatif type Pinel. Revers de la médaille, cet acompte est calculé sur les dépenses déclarées en 2017. Ceux qui ont embauché une nounou en 2018 devront donc attendre l'été prochain pour toucher l'intégralité de leur crédit d'impôt en une seule fois. Il pourrait y avoir aussi des trop-perçus si en 2018 vous avez arrêté de faire garder vos enfants à temps plein, par exemple. Ce trop-perçu, vous devrez le rendre l'été prochain.
Et demain également, les indépendants seront directement prélevés de l'impôt, ainsi que les contribuables imposés sur les revenus fonciers. Les circuits opaques de Carlos Ghosn, disséqués par les Échos ce matin, qui révèlent que le patron de Renault a touché 7 millions d'euros de la part d'une structure conjointe à Nissan et Mitsubishi aux Pays-Bas. Sa fonction, c'était la distribution de bonus aux employés et aux managers des constructeurs. Carlos Ghosn s'y serait fait engager comme salarié pour être rémunéré sans en parler aux autres directeurs. Et puis l'épouse de Carlos Ghosn se plaint aujourd'hui à Human Rights Watch des conditions de détention de son mari au Japon, à l'isolement dans une cellule éclairée jour et nuit, harcelée par ses interrogateurs. Madame Ghosn exhorte l'ONG à pousser le gouvernement japonais à réformer son système de détention.
8h08 Florence, fin de cavale pour Cesare Battisti et retour à Rome.
Retour à Rome pour l'ancien activiste extrême gauche, condamné pour 4 meurtres dans son pays dans les années 70, arrêté samedi soir en Bolivie. Il est dans un avion italien en route vers le pays qu'il a quitté il y a une quarantaine d'années, d'abord réfugié en France, puis au Brésil, jusqu'à l'élection de Jair Bolsonaro. Son extradition est unanimement saluée en Italie. Il y en aura d'autres, avertit Matteo Salvini, tout puissant ministre de l'Intérieur. L'Italie n'en a pas fini avec ses années de plomb.
Ce n'est ni le dernier, ni le seul. Il y en a des dizaines d'autres, des assassins en liberté, dans toute l'Europe, dans le monde entier. Je vous donne ma parole que nous mettrons toute l'énergie possible pour les ramener dans les prisons italiennes, du premier au dernier. On ne les laissera pas s'échapper, aucun. On ira les chercher un par un et on les fera pourrir en prison.
Jean-Yves Le Drian en Irak, son arrivée est imminente à Bagdad, un mois après l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie par Donald Trump. La France ne lâchera pas la guerre contre le groupe État islamique, c'est ça le message de cette visite de deux jours du ministre français des Affaires étrangères, visite suivie par notre envoyé spécial Franck Madvon.
Les États-Unis s'en vont, mais vous pouvez compter sur la France. Voilà ce que vient dire en Irak Jean-Yves Le Drian. L'annonce par Donald Trump du retrait des quelques 2000 soldats américains présents en Syrie a sidéré Paris.
Nous avons appris le retrait des États-Unis de Syrie de manière très brutale. Nous avons fait savoir aux États-Unis que nous ne comprenions pas cette rapidité parce que Daesh n'est toujours pas vaincu en Syrie.
Et même en Irak, des cellules djihadistes se reforment, des attentats surviennent à nouveau. Les Américains promettent un retrait progressif, mais ils ont commencé ces derniers jours à évacuer leurs troupes de Syrie. Pour le moment, assure Jean-Yves Le Drian, la France, deuxième contributeur de la coalition contre Daesh, n'abandonne pas le combat, ni en Syrie, ni en Irak.
La France est présente en Irak, la coalition aussi. La coalition se réunira à Washington au mois de février pour décider de la suite de son action. Donc pour l'instant, nous sommes là et nous restons.
Mais que peut faire la France sans l'appui des États-Unis ? Son objectif est d'assurer un retrait américain coordonné avec les autres acteurs de la région, ne pas lâcher notamment les alliés kurdes syriens. L'Irak, où opèrent déjà des soldats américains et français, est plus que jamais un pivot de la guerre contre les djihadistes.
Et c'est l'un des périls du retrait américain, le sort des Kurdes face aux Turcs. Ce matin, Donald Trump met en garde la Turquie. Les États-Unis vont dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, tweet le président américain. Ankara n'en a que faire et répond qu'elle compte poursuivre la lutte contre la milice kurde après, malgré les menaces de Donald Trump. J-1 à Londres avant le vote des députés sur le Brexit. Theresa May va encore tenter de les convaincre. Mission quasi impossible pour la première ministre qui tentera ce nouvel argument alternatif au Brexit sans accord. Pas de Brexit du tout et le risque, selon elle, d'une immense déception pour les électeurs.
France Inter, il est 8h11. L'affaire avait entaché, Florence, la réputation de la PJ parisienne.
Des accusations de viol au 36 quai des Orfèvres. Deux policiers seront jugés à partir d'aujourd'hui par la cour d'assises de Paris. C'est une touriste canadienne qui les avait dénoncés en 2014 après une soirée très arrosée, l'Aurélie Carive.
C'est dans un pub irlandais de l'autre côté de la Seine, juste en face du 36 quai des Orfèvres, qu'Emily fait connaissance avec des policiers de la BRI ce soir-là. L'alcool coule à flot, l'ambiance est au flirt. Les fonctionnaires proposent à la jeune Canadienne de lui faire visiter de nuit les locaux de la police judiciaire. Emily ressort du 36 une heure plus tard, en larmes, chaussures à la main. Elle crie qu'elle a été violée. Les deux policiers mis en cause ont d'abord nié en bloc. Les analyses ADN les ont toutefois obligés à revoir leur version. Ils ont fini par admettre des relations sexuelles, mais consenties, disent-ils. En 2016, les juges d'instruction ont rendu un non-lieu. À leurs yeux, rien ne montre qu'Emily a dit non. Il y a aussi ce rapport d'experts qui évoque chez elle une personnalité borderline, une tendance à la dramatisation. Pour Sophie Obadia, l'avocate de la plaignante, parce qu'elle s'attaque à une institution, la parole de sa cliente a été immédiatement suspecte.
On lui a fait subir de très très longs interrogatoires pendant la phase de l'instruction, jusqu'à aller enquêter sur sa vie privée dans son pays d'origine. Ses amants, avec qui elle avait des relations avant au Canada, ce qui n'est absolument pas la règle dans une affaire de viol ordinaire.
Finalement, la chambre de l'instruction a eu une autre lecture du dossier et décidé de renvoyer les fonctionnaires devant les assises. Pour les magistrats, il y a bien eu violence et contrainte. Les policiers ont exploité l'état d'ivresse de la jeune femme.
12 immeubles parisiens toujours inaccessibles deux jours après l'explosion de gaz qui a fait 4 morts dans le 9e arrondissement de Paris. Leur structure a bougé, prévient la préfecture de police. Les résidents évacués ne pourront pas réintégrer leur logement avant plusieurs jours, dans le meilleur des cas. Direction Melbourne maintenant pour le tournoi qui donne le ton de la saison de tennis. J'ai nommé l'Open d'Australie. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
C'est vous qui allez suivre la quinzaine, Fabrice. Vous avez déjà vu Nadal en très grande forme après 4 mois d'absence.
Oui, tout va pour le mieux pour Rafael Nadal, qualifié sans trembler pour le deuxième tour. L'Espagnol s'est débarrassé de l'Australien James Duckworth en 3-7, parfaitement maîtrisé. Un Nadal solide, sérieux et discipliné. L'Espagnol passait un test aujourd'hui parce que il reprend tout simplement la compétition à Melbourne après 5 mois d'absence en raison de multiples blessures. Eh bien, l'Espagnol aujourd'hui est sorti vainqueur et surtout il est sorti du court complètement rassuré sur son état de santé.
Alors, on attend qui maintenant ? On attend Andy Murray qui a annoncé sa retraite pour cette saison.
Oui, Andy Murray va affronter l'Espagnol Bautista Agut et c'est loin d'être gagné pour l'ex numéro 1 mondial. D'abord parce que Bautista Agut est un joueur extrêmement dangereux. Ensuite parce que, vous l'avez dit, en effet, Andy Murray souffre de la hanche depuis un an et demi. Il ne s'en sort pas, il souffre toujours. La douleur est toujours vive, elle est insupportable. Et c'est pour cette raison, en effet, qu'il a annoncé jeudi dernier qu'il allait mettre un terme à sa carrière cette année et si possible à Wimbledon, évidemment, en juin prochain, chez lui, là où il a gagné deux fois. Il sait qu'il ne retrouvera plus jamais son meilleur niveau. Alors, plutôt que de faire de la figuration, il préfère tout arrêter. Ça n'a plus de sens pour lui de continuer sa carrière. Évidemment, ici, tout le monde attend Andy Murray et les spectateurs en particulier australiens.
Que l'on scrutera attentivement, Fabrice. Dernière vedette de cette quinzaine, c'est Roger Federer.
Oui, Roger Federer, 37 ans, toujours là, hein, Roger Federer, bon pied, bon œil, il est le double tenant du titre, Roger Federer, il vise un 7e trophée à Melbourne, un 21e en Grand Chelem, il affrontera au premier tour, un peu plus tard, l'Ouzbek Denis Istomin. Sachez que Roger Federer n'a pas perdu au premier tour dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2003.
Fabrice Abgral en direct de Melbourne, côté français, ça n'a pas été très très brillant. Aujourd'hui, la seule victoire française, c'est celle de Caroline Garcia, Gaël Monfils. Et sur le court, c'est le dernier français en lice pour aujourd'hui. Enfin, l'OM sifflé au Vélodrome hier soir. Les Marseillais ont fait match nul un partout face à Monaco. Vous êtes la honte de Marseille, ont lancé les supporters à leur équipe 9e du championnat et qui n'a pas gagné depuis 8 matchs. Soirée plus calme à Nantes où Rennes l'a emporté 1-0.
Merci Florence Paracuello, c'est soigner votre voix. Florence, elle est précieuse pour nous tous.